أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
D'autres incidents dans la série sur les événements liés à la bataille d'Uhud. Ces récits mettent en exergue la beauté du caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jabir bin Abdullah rapporte qu'Abdullah bin Amr était endetté au moment de son décès. Jabir bin Abdullah déclare « J'ai demandé l'aide du saint prophète Mohammed peace soit lui pour qu'il persuade ses créanciers afin qu'ils réduisent une partie de ses dettes. » Le saint prophète Mohammed peace soit lui leur a demandé de le faire, mais les créanciers ont refusé de le faire. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Va et sépare chaque type de dette que tu possèdes. » Mets chaque type de dette dans un tas séparé. Il a dit « Sépare les dettes Adjoua et les dettes Isko bin Zaid. » Sépare les dettes Adjoua et les dettes Isko bin Zaid. Ensuite, envoie-moi un message. Jabir déclare, j'ai suivi l'instruction du saint prophète Mohammed, puisse soit lui, et j'ai envoyé un message au messager d'Allah. Le saint prophète Mohammed, puisse soit lui, est venu. Il s'est assis sur un tas de dettes où entre l'État. Ensuite, il m'a dit ceci, pèse les dettes et donne-en à ces gens. J'en ai pesé et je leur ai donné tout ce qui leur était dû. Mais il me restait encore des dettes, comme si elles n'avaient pas diminué. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié en faveur des martyrs d'Uhud en disant « Oh Allah, veuille accorder aux familles des martyrs d'Uhud des personnes témoignant d'une grande bienveillance à leur égard. » Hadrat Muslim Maud Aradu Taranhu a expliqué ceci à ce propos. Une vieille femme, la mère de Mouath, avait une vue faible et elle était sortie de Médine par amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai déjà mentionné ce récit dans le précédent sermon. Après avoir relaté cet incident, le Muslim Maud Aradu Taranhu a déclaré lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu la vieille femme, il a arrêté sa monture et il lui a présenté ses condoléances suite à la mort de son fils. Le Muslim Maud radiallahu anhu déclare « Regardez ces événements et voyez à quel point le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était soucieux de faire montre de compassion envers ceux qui ont souffert. » Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à la vieille femme « Sois heureuse et offre aux autres sœurs dont les proches sont morts au combat cette bonne nouvelle. » Allah a réuni au paradis tous ceux qui sont morts aujourd'hui lors de la bataille d'Uhud. Et tous ces martyrs ont prié Allah en disant « Oh Allah, prends soin de nos familles. » Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lui-même prié en disant « Oh Allah, fais en sorte que les familles des martyrs d'Uhud aient de bons soutiens emplis de sollicitude. » Cela montre comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a consolé les familles des martyrs d'Uhud avant même d'entrer à Médine, et il leur a exprimé sa sympathie. Et bien que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ait été blessé, et que ses proches parents étaient morts au combat, et que ses compagnons les plus chers étaient décédés, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'a cessé de réconforter les habitants de Médine à chaque pas. Il ne se souciait guère de sa propre douleur. Il ne pouvait y avoir personne d'autre que lui pour exprimer sa compassion envers les autres en un moment de tant de souffrance, de chagrin et de malheur. En de tels moments, les gens ne sont même pas disposés à parler à quelqu'un, encore moins à lui faire montre de compassion. On trouve ensuite une autre invocation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, invocation faite en faveur d'une veuve d'un martyr. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: « J'implore Allah pour qu'il t'offre un soutien meilleur que ton mari. » Hadrat Muslim Maud Radio Talanho a expliqué ceci en ces termes. La bataille d'Uhud a été une épreuve très difficile pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait jamais été victime d'une tentative d'assassinat auparavant. Non seulement a-t-il été attaqué à Uhud, non seulement ses dents également ont été cassées et qu'il a été blessé. En outre, l'ennemi a marché sur lui et sur ses compagnons, tandis qu'il était inconscient. C'était la première fois qu'un tel événement se produisait dans sa vie. Mais même lors de cette bataille, nous constatons comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve d'une grande détermination et d'une moralité exemplaire, et comment il a fait preuve de compassion et de sollicitude envers les gens. Les circonstances de cette bataille montrent à quel point il était élevé dans la moralité. Et ces circonstances révèlent également les sacrifices sans précédent de ses compagnons. Hadrat Muslim Maud déclare: « Je parle du moment où le saint prophète Mohammed paix soit sur lui revenait à Médine après la fin de la bataille. Les femmes de Médine, qui étaient très inquiètes après avoir entendu la nouvelle de sa mort, sont sorties de la ville pour l'accueillir à une certaine distance. Elles sont sorties de la ville après avoir appris son arrivée. Parmi elles se trouvait sa belle-sœur Zainab bint Jahash. Trois de ses proches parents étaient morts au combat. Je tiens ici à préciser qu'il y a là une erreur dans le nom utilisé dans le recueil Anwarul Uloum. Peut-être que l'erreur vient du rédacteur ou que le Muslim Maud Radotanhu ait utilisé ce nom. En tout cas, il y a une erreur sur le nom de la personne. Zainab bint Jahash était l'une des épouses du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Hamna bint Jahash était le nom de sa belle-sœur. Elle était mariée à Moussa bin Umar. Au fil du récit, je corrigerai le nom en temps et lieu. Lorsque le Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui a vu Hamna bint Jahash, il a dit: « Pleure la mort de ton parent. » C'est une expression arabe qui signifie « Je t'annonce la mort d'un proche ». Hamna bint Jahash lui a demandé: « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour qui dois-je pleurer ?» Il a répondu: « Ton oncle Hamza est tombé en martyr. » En entendant cela, Hamna a récité la formule « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » et a déclaré « Qu'Allah élève son rang, quelle belle mort il a eue !» Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a aussi déclaré « Pleure la mort d'un autre mort !» Hamna a demandé « Qui, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ?» Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ton frère Abdullah bin Jahash est également tombé à martyr. Hamna a récité la formule Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Louange à Allah, quelle belle mort il a méritée. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Pleure la mort d'un autre parent ». Hamna a demandé « Qui au messager d'Allah ?» Il a répondu « Ton mari est également tombé en martyr ». En entendant cela, les larmes ont coulé des yeux de Hamna et elle a déclaré « Hélas ». En voyant cela, le saint prophète Mohammed a déclaré « Regardez à quel point une femme est attachée à son mari ». Lorsque je lui ai annoncé la mort de son oncle, elle a récité « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Lorsque je lui ai annoncé la mort de son frère, elle a encore récité « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Mais lorsque je lui ai annoncé la mort de son mari, elle a soupiré et elle a déclaré « Hélas !» et elle n'a pas pu retenir ses larmes et elle a pris peur. Ensuite, le saint prophète Mohammed a déclaré « En de tels moments, les femmes oublient leurs proches parents et leurs parents par le sang, mais elles se souviennent de leur mari bien-aimé. » Ensuite, le saint prophète a demandé à Hamna « Pourquoi as-tu dit, hélas, en apprenant la mort de ton mari ?» Hamna a répondu « Au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai pensé à ses fils. » Qui va s'occuper de lui? Il a déclaré, « Je prie Allah de leur donner quelqu'un qui prendra mieux soin d'eux que ton mari. » Suite à cette prière, Hamna a épousé Talha, et de cette union est né Muhammad bin Talha. Cependant, selon les chroniques, Talha n'avait pas autant d'affection et de tendresse envers son fils Muhammad que pour les premiers enfants de Hamna. Les gens disaient qu'aucun autre que Talha n'avait autant d'amour pour les enfants d'une femme. C'était là le résultat de la prière du noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu a mentionné cet incident de la manière suivante. Lorsque le saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a exprimé sa sympathie à l'égard de Hamna bint Jahash, il a déclaré, par la suite, « Voyez combien de profonds liens d'affection existent entre une femme et son époux aimant. » Le Muslim Maud souhaitait dire que les hommes doivent bien se comporter avec leur épouse. Ceci est une leçon générale pour les hommes de bien traiter les femmes et de ne pas les frapper ou les maltraiter pour des raisons insignifiantes. Certains utilisent comme excuse le fait d'avoir le droit de frapper. Même de nos jours, cela se produit. On doit bien traiter son épouse. Le Muslim Maud déclare « Les femmes se sont séparées de leurs proches pour demeurer avec leur mari et la justice exige qu'elles soient honorées et pas qu'on se dispute avec elles pour des futilités. » D'une part, le saint prophète Mohammed lui a encouragé Hamna bint Jahash et d'autre part, il a enseigné aux hommes de bien se comporter à l'égard de leurs épouses. Ainsi, il y a une leçon dans chaque récit. Quand on écoute ces récits attentivement et lorsqu'on y réfléchit sérieusement, on se rend compte que les paroles du saint prophète Mohammed lui ne s'adressaient pas à une personne spécifique, mais comprenaient un conseil général pour tout le monde. Le saint prophète Mohammed lui avait aussi un grand respect à l'égard des sentiments et des émotions d'autrui. Hadrat Muslim Maud Radhiyallahu explique ceci à cet égard. Le saint prophète Mohammed est entré à Médine et il était affaibli par ses blessures. Les compagnons l'ont aidé à descendre de sa monture et il a accompli la prière de Maghrib avant de se rendre chez lui. Les femmes de Médine, dont des proches avaient été tués lors de la bataille, avaient appris la nouvelle de leur décès et s'étaient mises à pleurer. En entendant leurs pleurs, le saint prophète Mohammed lui a été touché par la douleur des musulmans et ses yeux étaient remplis de larmes. Et il a aussi déclaré « Mais personne ne pleure Hamza ». Il a déclaré « Mon oncle et mon frère de lait est également tombé en martyr, mais personne ne pleure son décès ». Les compagnons étaient toujours désireux de répondre aux sentiments et aux émotions du saint prophète Mohammed P.S.A. lui. En entendant ces paroles, ils ont couru vers leur maison et ils ont dit à leurs femmes, Cessez de pleurer vos proches et rendez-vous à la maison du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour pleurer Hamza. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fatigué par son voyage, était en train de se reposer. Bilal avait lancé l'appel à la prière d'Isha, mais pensant que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était fatigué et qu'il dormait, il ne l'a pas réveillé. Le saint prophète Muhammad, paix soit sur lui, était endormi. Au dernier tiers de la nuit, il a réveillé le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la salat. Lorsque le saint prophète Muhammad, paix soit sur lui, s'est réveillé, les femmes étaient toujours dans sa maison en train de pleurer Hamza. Il a demandé que se passe-t-il. On lui a dit que, au prophète d'Allah, les femmes de Médine sont en train de pleurer la mort de Hamza. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que Dieu ait pitié des femmes de Médine, elles m'ont témoigné leur sympathie. Ensuite, il a ajouté, je savais d'ores et déjà que les Ansar m'aimaient beaucoup. Il a également dit que ce type de pleurs était désapprouvé par Dieu. Les compagnons ont déclaré au prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, c'est la coutume de notre peuple. Nous ne pouvons apaiser notre douleur si nous ne pleurons pas de cette façon. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Je n'interdis pas le fait de pleurer. Mais dites aux femmes de ne pas se frapper le visage et de ne pas s'arracher les cheveux et de ne pas déchirer leurs vêtements. Et si des larmes viennent naturellement avec émotion, eh bien pleurez certes. » Ces paroles illustrent la haute moralité du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son profond respect pour les sentiments et les émotions des autres, même lorsqu'il était blessé et souffrant. Le Muslim Maoud radhiyallahu anhu a évoqué cet incident sous un angle particulier. Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu les femmes de Médine pleurer leur mort, il a craint que les muhajirines et les proches de Hamza ne se sentent exclus. Par souci de leurs sentiments, il a déclaré « Est-ce qu'il n'y a personne pour pleurer Hamza aujourd'hui ?» Lorsque les femmes de Médine ont commencé à pleurer Hamza, il les a dissuadées de le faire de cette manière. Cela montre que s'il avait voulu que Hamza soit pleuré, il n'aurait pas empêché les femmes de le faire par la suite. Lorsqu'il a exprimé son regret qu'il n'y a personne pour pleurer la mort de Hamza, son intention était purement de consoler ses femmes. De même, lorsqu'il a dissuadé les femmes de pleurer la mort de Hamza, son intention était également de les consoler, car il les a empêchées de pleurer tout en les remerciant de leur sympathie. Il a déclaré « Je connaissais d'ores et déjà l'insympathie des Ansar à mon égard. » Il souhaitait par là qu'ils ne se froissent pas suite à cette interdiction de pleurer. Il les a dissuadés et il les a remerciés. Son attitude dans ce moment délicat nous paraît admirable et grandiose. En effet, dans une situation où un proche a été tué, où on est soi-même blessé et où on se sent menacé dans un avenir proche, il est rare de voir pareille attitude démontrée par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les livres d'histoire évoquent également les compagnons qui se sont distingués lors de la bataille d'Uhud. Lorsque le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui, il a confié son épée à sa fille Fatima en lui disant « Ma chère fille, lave le sang qui se trouve sur cette épée. Par Dieu, elle a accompli son devoir aujourd'hui. » Il lui a dit « Oh ma chère fille, lave le sang qui se trouve sur cette épée. Par Dieu, elle a accompli son devoir aujourd'hui. » Ensuite, Ali a également confié son épée à Fatima en lui disant la même chose. « Lave le sang se trouvant sur cette épée. » À cette occasion, il a utilisé les mêmes paroles que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il a déclaré « Par Dieu, cette épée a accompli des prouesses aujourd'hui. » En entendant cela, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Si tu as accompli des prouesses aujourd'hui au combat, Sahal bin Hunayf et Abu Dajana ont également fait preuve d'une grande bravoure à tes côtés. Si tu as accompli des prouesses aujourd'hui au combat, Sahal bin Hunayf et Abu Dujana ont également fait preuve d'un grand courage aujourd'hui. Selon un récit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré et si tu as excellé dans le maniement de l'épée aujourd'hui, Sahal bin Hunayf, Abu Dujana, Asim bin Thabit et Harith bin Sima ont également fait preuve d'une grande bravoure. Hadrat Muslim Maud Radwatalanhu déclare que les historiens rapportent que Ali, à son retour de la bataille d'Uhud, a offert son épée à Fatima en lui disant « Lave-la car elle a accompli des prouesses aujourd'hui ». Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui avait entendu les paroles de Ali. Et il a déclaré « Ali, ce n'est pas seulement ton épée qui a accompli des exploits aujourd'hui. Beaucoup de tes frères ont également montré la valeur de leurs épées. » Et il a évoqué le nom de 6 ou 7 compagnons et il a dit que leurs épées n'étaient pas moins performantes que celles de Ali. En bref, le saint prophète, paix soit sur lui, n'a pas toléré que son gendre dise quelque chose qui puisse blesser les sentiments des autres compagnons. Cela montre que le saint prophète, paix soit sur lui, prêtait attention aux moindres détails. La bataille d'Uhud était un événement important aux conséquences durables. Après cette bataille, les gens s'inquiétaient que l'ennemi ne devienne plus audacieux ou que l'avenir ne s'annonce pas bien. En pareille situation, on ne se soucie guère de ces faits mineurs. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, a fait preuve de compassion et de sollicitude envers tout le monde. Ici se terminent les récits sur la bataille d'Uhud. Je mentionnerai maintenant une autre expédition militaire appelée la Ghazwa Hamra al-Asad qui a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 3 de l'Hégire. Cette expédition était en fait une partie et la continuation de la bataille d'Uhud et c'est grâce au résultat de la Ghazwa Hamra al-Asad que la bataille d'Uhud est considérée comme une véritable victoire pour les musulmans. Le site de Hamra al-Asad se trouve à 12 km à gauche de Médine, lorsqu'on se dirige de Médine vers Dhul Hulaifa. Quelle était la raison de la Ghazwa Hamra al-Asad? Selon les récits, à la fin de la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed P.S.A. lui est arrivé à Médine au moment de la prière du soir. Et malgré ses blessures graves, il s'est rendu à la mosquée avec le soutien de ses compagnons et il a accompli la prière de Maghrib. Ensuite, il a accompli la prière d'Isha à la mosquée. Après la prière d'Isha, le saint prophète Mohammed P.S.A. lui est rentré chez lui. Mais il avait passé toute la nuit éveillé car il craignait qu'Abu Sufyan ne prépare une attaque contre Médine avec son armée. C'est pourquoi la tension régnait à Médine et on montait la garde constamment devant la maison du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui avait également tenté de savoir quelles étaient les intentions d'Abu Sufyan. Allait-il préparer une attaque contre Médine? Le rapport initial indiquait qu'Abu Sufyan se hâtait avec son armée vers la Mecque, mais le saint prophète Mohammed P.S.A. lui n'a pas négligé cette situation. Les craintes du saint prophète Mohammed P.S.A. lui se sont avérées fondées. Et avant que la nuit ne se termine complètement, il a reçu l'information qu'Abu Sufyan se préparait à attaquer Médine avec son armée. Lorsque les polythéistes sont revenus du champ de bataille d'Uhud, ils rencontraient en cours des routes des gens, et lorsque ces derniers apprenaient la nouvelle de la bataille, ils se moquaient des Quraychites en disant que « Ni n'avez-vous tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni n'avez-vous ramené les femmes musulmanes, ni n'avez-vous fait des prisonniers, et ni n'avez-vous pris aucun butin. De quelle victoire parlez-vous ?» En entendant ces railleries, l'armée Quraychite a atteint un lieu appelé Rawha, qui se trouve selon certains à 34 km de Médine ou 55 km de Médine selon certains. L'armée des Quraychites a campé là-bas et ils ont commencé à discuter entre eux, se demandant s'il était vraiment juste de revenir sans prisonniers, sans butin. ce sera une grande honte selon eux. Ils pensaient qu'ils devraient faire demi-tour et attaquer Médine. Cependant, un autre chef qui se trouvait dans l'armée, Safwan bin Umayya, a déconseillé fortement cette action. Il a averti que l'idée d'attaquer Médine à ce moment serait désastreuse, car il subirait une grande défaite. Mais Abu Sufyan et la majorité de ses compagnons ont décidé qu'ils devaient attaquer Médine. Sinon, ils ne pourraient pas retourner à la Mecque la tête haute. La discussion était en cours dans le camp d'Abu Sufyan, tandis que Bilal lançait l'appel à la prière de l'aube. Ils attendaient assis à l'extérieur pour que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sorte de chez lui. Pendant ce temps, Abdullah bin Amr bin al-Awf Musni est venu à la recherche du saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est sorti, Abdullah s'est approché de lui et lui a dit qu'il venait de la part de sa famille. Et en chemin, il avait croisé la caravane d'Abu Sufyan. En leur parlant, il a entendu qu'ils se disaient entre eux, « Vous n'avez rien accompli, vous leur avez causé aucun tort, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait du mal aux musulmans, vous ne leur avez pas causé de douleur et vous ne les avez pas détruits. » Les mécréants disaient qu'il y a beaucoup de grands hommes parmi les musulmans qui vont se rassembler pour les affronter. Ensuite, ils ont déclaré « Retournons afin que nous puissions affronter ceux qui restent parmi les musulmans. » Safwan bin Umayya les en a dissuadés et il leur a dit de ne pas faire cela, car il y avait certes ceux qui avaient combattu, mais ils craignaient que ceux qui ont évité le combat ne se joignent aux autres combattants pour affronter les Quraychites. Safwan bin Umayya a déclaré « Rentrez chez vous, car la victoire est sûrement à vous, mais je crains que si vous retournez en arrière, vous allez subir une grande défaite. » Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il a commenté « Safwan n'est pas si intelligent, mais sa proposition est très judicieuse. » C'est-à-dire le fait qu'il a empêché Abu Sufyan d'attaquer Médine. Cependant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit avec une grande majesté « Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains que s'ils attaquent Médine, des pierres ont été désignées pour les bombarder, ce qui effacera leur nom et leur trace comme si hier est passé. Quoi qu'il en soit, je donnerai plus de détails à ce sujet plus tard, Inch'Allah. » L'effort que je prône souvent est la prière. Ne cessez de prier. Comme on le craignait, Israël a attaqué directement l'Iran, tout comme tout le monde le sait. Cela va aggraver la situation. Qu'Allah accorde la raison aux dirigeants de ce monde qui s'efforcent d'attiser une guerre mondiale. Qu'Allah accorde aussi la raison à la communauté musulmane et qu'il leur accorde compréhension, qu'il leur accorde la sagesse et la force de s'unir et de faire face correctement à leur adversaire. Je tiens également à mentionner ici deux personnes qui sont décédées récemment. La première personne est le vénéré Maulana Ghulam Ahmad Saib Nassim. Il était missionnaire de la Jamia Ahmadiyya et il a servi comme professeur à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Il vivait aux États-Unis ces derniers temps. Il est décédé il y a quelques jours de cela à l'âge de 93 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Son père Salah Muhammad Saib a commencé à chercher le Mahdi après avoir vu le signe de l'éclipse du soleil et de la lune. Il a vu le signe de l'éclipse solaire et lunaire, il a commencé la recherche du Mahdi à ce moment-là. Ensuite, plusieurs années se sont écoulées et il a finalement prêté le serment d'allégeance en 1901. Vivant dans une région éloignée, il n'a pas pu se rendre à Qadian pour visiter le Messie premier d'Islam. Par la grâce d'Allah, Mir Salah Mohammad Saib était un moussi et il a dû faire face à une forte opposition en raison de son acceptation de l'Ahmadiyya. Leur famille était le seul foyer Ahmadi de leur village. Mir Ghulam Ahmad Nassim Saab a fait sa demande de Waqfa pendant ses études en 1947. Sa requête a été acceptée et il a reçu les instructions de poursuivre ses études. En 1948, il a commencé à enseigner à la Madrasa Ahmadiyya de Ahmadnagar après la partition. En 1954, il a obtenu le diplôme de Maulvi Fazil et il a obtenu le diplôme de Shahid de la Jamiatul Mubashirin. Et il a reçu sa première affectation sur le terrain en 1957. Il est parti en Sierra Leone en 1960 où il a servi pendant 3 ans comme missionnaire et comme directeur de l'école Ahmadiyya de Dohou. À son retour au Pakistan, il a été affecté à la Jamia Ahmadiyya. Il a également assumé les fonctions de bibliothécaire en chef. Il prenait également des cours lorsqu'un professeur était en congé. Au cours de cette période, il a obtenu une maîtrise en arabe de l'Université du Punjab. En 1966, il a été affecté à la Guyane, où il a servi pendant 4 ans et demi. Il est retourné au siège en 1970. De 1970 à 1975, il a été nommé professeur à la Jamia Ahmadiyya et il enseignait principalement aux étudiants étrangers. De 1975 à 1979, il a servi pendant 4 ans comme missionnaire en Zambie, en Afrique. Ensuite, de 1980 à 1997, il a servi comme professeur d'histoire et de soufisme à la Jamia Ahmadiyya. Selon ses mémoires, il a servi en Sierra Leone, en Guyane et en Zambie pendant 11 ans, restant à l'étranger pendant toute la période sans sa famille. Feu le quatrième calife avait également mentionné sa femme et ses sacrifices dans un de ses discours. Son épouse, Amtul Mannan Kanwal Sahiba, était l'ancienne directrice de la Fazal Omar Girl School à Rabwa. Allah leur a accordé 4 enfants qui sont tous au premier rang des services qu'ils rendent à la Jamaat et ils sont tous instruits. L'une d'entre elles est la docteur Amtul Shakur Sahiba. Elle est l'épouse de la docteur Abdul Hafiz et se trouve aux États-Unis. Elle a également servi pendant 11 ans en Gambie et en Tanzanie dans le cadre du projet Nusal Jahan. Le défunt était également actif dans le domaine académique et il est l'auteur de 3 ouvrages, Kamus Uruya, l'interprétation des rêves par ordre alphabétique, Tasawuf Rouhani Science, le soufisme et la science spirituelle et Yadi Ayam, il s'agit de ses mémoires. Inamullah Haq Kauthar, missionnaire en chef de l'Australie, écrit que le défunt enseignait et prenait soin de ses élèves avec humilité et modestie. Il relate ceci. « Lorsque je suis parti en tournée en Guyane britannique, les anciens de tous les villages où des communautés ont été établies grâce au défunt ont fait l'éloge du défunt et ils avaient sa photo avec eux. Allah a établi une communauté forte en Guyane britannique grâce au défunt. » Alek Mushtaq Saheb, un missionnaire de la Jamaat au Suriname, écrit que Maulana Mir Ghulam Ahmad Naim Saheb a effectué 3 visites au Suriname de 1967 à 1969 pendant son séjour en Guyane et il a séjourné plusieurs semaines au Suriname pour redynamiser la communauté locale. À cette époque, pour diverses raisons, la majorité des membres de la communauté avaient fait sécession et il n'y avait que quelques Ahmadis qui étaient présents. Et le contact avec le siège était également rompu avec ces Ahmadis. C'est en pareille circonstance que l'honorable Maulana Ghulam Ahmad Nassim Saheb est venu du Guyana au Suriname et il a organisé la première rencontre le 15 septembre 1967. 6 personnes étaient présentes pour cette session et ces personnes ont prêté le serment de maintenir un lien indéfectible avec la communauté. À cette époque, le Maulvi Shah Ahmad Nourani du Pakistan était également au Suriname et il prononçait des discours haineux contre la communauté à divers endroits. Maulana Nassim Saheb a également organisé plusieurs réunions pour répondre à ces accusations et a diffusé 3 émissions radio sur la véracité du Messie premier Islam. Lors de sa 2e visite en mai 1968, il a aussi posé la première pierre du centre de la mission à côté de la mosquée en construction, et la construction a été achevée après quelques années. Il a défié l'imam de la Jamaat Lahori, Abdulrahim Jagu, et l'imam de la Jamaat Sunnite à un débat. Il avait également publié plusieurs brochures sur la véracité du Messie premier d'Islam. Le 21 juin 1968, lors d'une réunion de questions et de réponses organisée au domicile d'un membre de la communauté, les musulmans malveillants ont attaqué les membres de la communauté. La table principale se trouvait devant la porte d'une pièce et les personnes assises à la droite et à la gauche de Mawlana Saheb l'ont poussé dans la pièce et ont fermé la porte de l'extérieur. Les agresseurs ont violemment tabassé les membres de la communauté et les ont frappés avec des chaises en bois. En plus des hommes, plusieurs femmes ont été également grièvement blessées lors de cet incident. Mawlana Saheb a crié de l'intérieur de la pièce « Faites-moi sortir, je vais aussi les combattre ». Il était en effet très courageux. Les malveillants ont également emporté une mallette de Mawlana Saheb contenant son passeport et d'autres effets personnels. La police l'a récupéré quelques jours plus tard. Quoi qu'il en soit, après cet incident, il a pris contact avec la police et les autorités compétentes de manière intensive pour assurer la sécurité des membres de la communauté. Le défunt a également donné des conférences sur l'islam et les problèmes contemporains au centre culturel. Il a exhorté les membres de la communauté à maintenir un contact régulier avec le siège. Ainsi, grâce à ses efforts, une communauté dispersée s'est remise sur ses pieds. Et par la grâce d'Allah, les missionnaires qui sont venus par la suite l'ont renforcé davantage. Et maintenant, c'est une Jamaat très forte par la grâce de Dieu. Qu'Allah élève le rang du défunt et qu'il perpétue ses bonnes œuvres parmi ses descendants et sa progéniture. Le prochain défunt que j'évoquerai est l'honorable Dr. Ihsanullah Zafar Saheb, l'ancien émir de la Jamaat des États-Unis. Il est décédé quelques jours de cela, à l'âge de 91 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était moussi et il a eu l'occasion de servir pendant une longue période en tant que président local, en tant que vice-émir de la Jamaat des États-Unis et en tant qu'émir de la Jamaat des États-Unis de 2002 à 2016. Il possédait de nombreuses qualités. Il était un homme très aimant et compatissant. Il avait une grande magnanimité et il laisse derrière lui deux filles. Son épouse et son fils sont décédés dans un accident quelques années de cela. Le défunt a enduré cette tragédie avec beaucoup de patience et de courage et ne s'est jamais plaint. Sa fille, la docteure Hannah Mariam, relate ceci. « Mon père était une personne très pieuse et religieuse. En plus d'être assidu à la prière et la récitation du Coran, et dans ses contributions, il s'efforçait toujours de renforcer son lien avec Dieu le Tout-Puissant. Il levait souvent les mains en supplication tout seul ou en compagnie d'autres personnes plusieurs fois par jour. Il ne se souciait jamais de ce que les autres pourraient penser de lui. Malgré les difficultés de la vie, il a toujours enseigné à ses enfants de remercier Dieu en toutes circonstances. » Sa fille ajoute, « Mon père était un dévoué suivant très sincère du califat. Il avait une grande connaissance de la religion, de l'histoire et de la politique. Même le jour où il s'est rendu à l'hôpital pour la dernière fois, il a lu le journal, il a écouté mon sermon et il a regardé des interviews sur l'histoire et il m'a dit de les regarder aussi. Il ne donnait jamais la priorité à sa propre connaissance et à ses opinions sur celles des autres, mais il écoutait, il réfléchissait et il jugeait tout avec calme. Il possédait une connaissance très profonde du Coran et de sa traduction. Il nous expliquait le sens du Saint-Coran et il nous expliquait aussi l'impact de ses enseignements sur notre vie. On pouvait également voir un aspect d'amour pour le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de gratitude envers Dieu le Tout-Puissant dans sa vie personnelle, dit-elle. Un jour, pendant le repas, il a commencé à faire une invocation et il nous a dit que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient parfois si peu de nourriture qu'ils devaient se contenter de dattes et du pain trempé dans du vinaigre. Malgré tout cela, dit-il, nous voulons toujours davantage. Nous devons être davantage reconnaissants. Il avait un grand zèle pour aider les nécessiteux, dit-elle. En 1967, il a eu l'occasion de se rendre à la Mecque. En chemin, son regard s'est posé sur un homme qui n'a rien dit, mais ses yeux exprimaient la détresse et la faim. Sa fille raconte que son père a donné à cet homme l'argent qu'il avait sur lui. Celui-ci l'a remercié du regard avant de se diriger vers un stand de nourriture. Sa fille raconte que quelques années de cela, il a ramené à la maison trois tapis turcs. En voyant cela, ma mère lui a dit qu'il les avait payés très cher et qu'il n'en avait pas besoin. Le défunt a déclaré que la femme qui les lui a vendus n'avait pas d'autre source de revenus et qu'en voyant sa passion, il a voulu l'aider. Il voyait toujours les qualités des autres et pas leurs défauts. Il nous conseille également à nous, ses enfants, de ne jamais le décourager face aux difficultés. Il disait qu'il fallait toujours demander tout à Dieu et être satisfait de ce qu'il nous offre. C'était le conseil qu'il nous donnait à tous et il le répétait souvent. Le docteur Nassim Rahmatullah Saab écrit à son sujet « Je travaille avec le docteur Ihsanullah Zafar Saab depuis 1989. Il était un homme très pieux et muttaqi, il avait un amour profond et passionné pour le califat. » Le docteur Mubashir Mumtaz Saab, qui se trouve aux États-Unis, relate ceci. « Le défunt donnait des instructions aux membres de l'AMLA sur un nom très doux. S'il n'était pas d'accord avec une suggestion, il expliquait en donnant des arguments au lieu d'imposer sa volonté par la force. Même lorsqu'il parlait de quelque chose de sérieux, il ne durcissait pas le ton de sa voix, ses explications touchaient le fond du cœur. Mirza Ihsan Saab relate ceci. J'ai eu la chance de travailler pendant de nombreuses années avec Ihsanullah Zafar Saab. En tant qu'émir, je l'ai vu tisser des liens très forts entre les membres de la Jamaat et le califat, ainsi que la Jamaat. Il était un homme très simple, compatissant et pacifique, soucieux des pauvres, dépourvu d'artifice et d'hypocrisie, totalement exempt d'avarice et de cupidité. Il ouvrait volontiers ses coffres à la Jamaat et aux pauvres. Il était absorbé par l'étude de l'interprétation du Saint-Coran et des livres du Messie premier des Salam. Il était totalement dépourvu d'arrogance et de vanité et d'égoïsme, et le moindre mécontentement du calife de l'époque le rendait très anxieux. S'il y avait le moindre reproche à lui faire, qu'il soit écrit ou dit, il manifestait toujours une grande inquiétude et il demandait immédiatement pardon et s'efforçait de rectifier la situation. Le défunt avait une passion dévorante pour les livres et sa bibliothèque personnelle contenait des livres si rares qu'on en restait stupéfié. Il avait un amour et une passion pour le Coran. Que ce soit dans une réunion ou dans une assemblée, il réfléchissait constamment sur les versets du Saint-Coran. Ces assemblées étaient simples et pleines d'amour et attiraient tout le monde. En tant qu'émir, il n'a jamais observé aucun protocole pour lui-même. Il était quelqu'un de très simple. Zahir Bajwa Saab écrit ceci. Un ami m'a dit qu'Ihsanullah Zafar Saab venait à la mosquée tranquillement et il a nettoyé tout seul la mosquée et les toilettes lorsqu'il n'y avait personne. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il le faisait, il répondait que cela lui donnait l'occasion de se purifier l'âme. Il était quelqu'un de très humble. La personne rapporte que le défunt avait un grand amour pour Dieu et sa compréhension de la position du saint prophète Mohammed paix soit lui et son amour pour le Messie premier l'Islam et sa dévotion au calife était exemplaire. Son amour pour le Coran était indescriptible. Chaque fois que nous nous essayions ensemble dans sa voiture, il plaçait un CD du Coran et à la maison, la MTA était toujours allumée. Chaque fois que nous venions à la mosquée Baitur Rahman, il mettait la MTA où était diffusée la récitation du Coran. Chez eux, il n'y avait que du Coran et des tafsirs, des commentaires du Saint-Coran partout et une grande quantité d'ouvrages dans des armoires dans presque toutes les pièces. Il ne se contentait pas de réunir ses ouvrages, mais il les étudiait régulièrement. La mère du défunt souhaitait qu'il rencontre quotidiennement Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab lorsqu'il étudiait arabois, ainsi que Hazrat Maulana Ghulam Rasul Saab Rajiki pour leur demander des prières. Le défunt relate à ce propos, « Je faisais de mon mieux pour rencontrer ces deux personnalités » et ma réussite dans le domaine de l'éducation et dans d'autres domaines de formation est en grande partie due à ces deux grands hommes. Ils ont joué un très grand rôle dans ma vie. Le défunt aimait tout le monde, mais il avait un amour particulier pour les Ahmadis défavorisés. Et cet amour était indescriptible. Il ne pouvait jamais penser du mal de personne, mais il avait toujours un pincement au cœur pour ceux qui n'étaient pas prêts à se sacrifier pour la communauté Ahmadiyya. Et il exprimait parfois ce sentiment. Son désir ardent était que chaque Ahmadi comprenne le statut véritable du Messie premier Islam. Il souhaitait que nous comprenions et que nous adoptions et que nous diffusions le message du Messie premier Islam. Et il ne cessait de réfléchir à de nouvelles méthodes pour y parvenir. Le défunt m'écrivait aussi à ce sujet de temps à autre à ce propos. Le défunt était également très attaché à la construction des mosquées. De nombreuses mosquées ont été construites à son époque. Il avait une foi très forte dans la prière. Une fois, lors d'une réunion de l'administration, quelqu'un a dit quelque chose qui amoindrissait l'importance de la prière. Le rapporteur a dit qu'il n'a jamais vu le défunt aussi en colère lors de cette rencontre, à cette occasion, suite à ses propos. Le défunt menait une vie très simple. Son passe-temps, c'était de construire des mosquées. Il acceptait l'opinion de tout le monde, mais il désapprouvait qu'on ne construise pas de mosquées. Tant qu'il était en bonne santé, il faisait lui-même le nettoyage complet de la mosquée Batul Nasr à Wilkesboro, et il le faisait chaque jeudi. Allah lui a accordé la grâce de participer activement aux sacrifices financiers. Mirza Maghfour Ahmad Saib, l'actuel amir de la Jamaat des États-Unis, écrit ceci. Allah le Tout-Puissant a accordé au docteur Ihsanullah Zafar Saib le privilège de servir en tant que Naïb Amir et plus tard en tant qu'émir de la Jamaat Ahmadiyya des États-Unis, et il a servi pendant une longue période. Moi-même, j'ai effectué 3 visites aux États-Unis pendant son mandat d'émir. Et il a organisé et accueilli ses visites avec une grande amabilité. En raison de sa maladie, sa mobilité était très limitée depuis plusieurs années, mais il continuait à assumer pleinement ses responsabilités d'émir avec joie. Dans ses conversations, il citait souvent le Messie premier Islam. Dans ses conversations, il citait souvent les ouvrages du Messie premier Islam. Il parlait du Messie premier Islam et il faisait des références à ses ouvrages exprimant un lien particulier avec le Messie premier Islam. Il avait un lien profond avec le califat et il lui vouait une grande obéissance. L'actuel émir des États-Unis écrit ensuite « Le défunt s'efforçait de transmettre immédiatement aux membres de la communauté toutes les instructions qu'il recevait du calife ». En tout cas, comme je l'ai dit, son obéissance au califat était sans pareil. Le défunt renonçait de gaieté de cœur à ses propres opinions. Qu'Allah, le Tout-Puissant, lui accorde son pardon et sa miséricorde. Qu'Allah élève son rang et qu'Allah protège ses filles et qu'il leur accorde la grâce de poursuivre ses bonnes.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.